Veux les roses, le 24 janvier 2016. J'ai rendez-vous avec Alexandre devant la stèle Victor Hugo. Juste au-dessous des vestiges de l'église Saint-Nicolas, quelques ruines dispersées autour d'une croix de grès. Alexandre est en retard. Je prends le temps de détailler l'immense fresque de bronze qui représente un Victor Hugo entouré d'une vingtaine de ses héros. Esmeralda, Quasimodo, Cosette, Gavroche. J'ai déposé il y a une heure Anaïs chez ses grands-parents. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai l'impression que les événements se jettent sur moi comme la houle sur la falaise, que je me lézarde, vague après vague. Alexandre surgit de nulle part, essoufflé. Alors Ariane, je suis venu en courant, j'ai même décommandé une sortie en mer prévue avec des amis à Antifer. Dites-moi vite, qu'avez-vous trouvé ? J'hésite un instant, je ne peux m'empêcher de repenser au coup de téléphone anonyme nocturne. Idiote, ne dites rien, ne faites confiance à personne. Tant pis. Je tends à Alexandre la lettre de Meulingue. Il la saisit, d'abord étonné, puis dévore les lignes manuscrites d'une traite. Ses yeux se plissent. Sa bouche grande ouverte lâche des « Mon Dieu, mon Dieu !» Alexandre relit, relit encore. « Alexandre, je n'existe plus. Alexandre !» Je hurle. La colère, la fatigue, la peur. Il lève enfin les yeux vers moi. « Venez !» Alexandre tire ma main, je ne résiste pas. Nous traversons tout le village presque en courant. La rue de la mer, la place des Écossais, la tour carrée de l'église Saint-Martin, la fabrique des tisserands. Je reconnais le grimoire de fer forgé, la bibliothèque de Veules. « Suivez-moi !» souffle encore Alexandre. La porte de la basse chaumière claque. « Salut, Mado !» lance Alexandre à la bibliothécaire derrière son bureau. La femme ne semble pas avoir bougé d'un millimètre depuis une semaine. Pas un cheveu du chignon. Alors que nous nous dirigeons vers les rayons consacrés à l'histoire locale, je me tourne vers Alexandre. « C'est quoi ce cirque ?»« Vous n'allez pas me croire, alors je vais directement vous montrer les preuves. Installez-vous. » Je m'effondre sur une chaise en reprenant ma respiration. Alexandre se hisse sur la pointe des pieds, attrape un grand ouvrage cartonné et le pose devant moi sur la table. J'ai à peine le temps de lire le titre « Encyclopédie illustrée du théâtre romantique français au XIXe siècle ». Écoutez-moi, Ariane. Nous savons qu'Anaïs Aubert s'est enfuie de Paris en 1826. Pour quelle foutue raison ? Déception amoureuse ? Échec au théâtre ? Vous avez dû surfer sur Internet, n'est-ce pas? Rien. On ne trouve strictement rien. Alors j'ai mis des années, mais j'ai cherché, dans les archives, dans des pièces de collection, dans la mémoire de vieux historiens. Ariane, écoutez-moi, cette lettre que vous avez trouvée confirme toutes mes déductions. Mon hypothèse la plus folle. Alexandre jette un œil méfiant à la bibliothécaire empaillée et baisse d'un ton, comme s'il craignait de se laisser emporter par son euphorie. Meulingue, dans la lettre que vous avez trouvée, parle d'Ami Robsart. Oui, il s'agit d'une pièce de théâtre écrite par le beau-frère de Hugo, Paul Fouché. Alexandre explose d'un rire méprisant. Pas du tout. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'Internet raconte. En réalité, lorsque Victor Hugo avait 19 ans, il écrivit trois actes d'une pièce, Ami Robsart, avec l'aide d'un certain Soumet qui devait rédiger les deux autres. Le Soumet en question a trouvé les actes proposés par le jeune et miséreux Hugo trop mauvais, mêlant selon lui de façon ridicule tragédie et comédie. Bref, nous sommes en 1822 et le texte de Hugo finit au fond d'un tiroir. Ce n'est que 6 ans plus tard que le beau-frère de Hugo, Paul Fouché, a l'idée de demander à Hugo de lui donner cette pièce de jeunesse que l'écrivain prétendait vouloir brûler. Hugo accepte. Il n'aurait pas dû. La seule et unique représentation sera un gigantesque fiasco pour Paul Fouché et par ricochet pour Victor Hugo. Il faudra attendre 1889, 4 ans après la mort de Hugo, pour que la pièce soit jouée à nouveau. Et vous vous en doutez, elle sera saluée cette fois par tous les critiques comme un authentique chef-d'œuvre. Je fais tomber mon manteau sur la chaise la plus proche. Je m'impatiente. Je finis par préférer l'Alexandre planchiste torse nu à l'Alexandre érudit indifférent face à ce qui me reste de séduction féminine. D'accord, Alexandre, mais quel rapport avec Veulent les roses ? Alexandre fait glisser vers moi l'encyclopédie illustrée du théâtre romantique français. Il tourne les pages jusqu'au chapitre consacré à Amyrhopsar. Joli, non? Les costumes étaient tout de même signés Eugène Delacroix, rien que ça. Mais regardez, regardez qui tenait le rôle d'Amyrhopsar lors de cette unique représentation. Je penche la tête et je découvre une liste de personnages suivie d'une liste d'acteurs. Amyrhopsar, joué par Anaïs Aubert. Mon Dieu! Attendez, attendez. Alexandre saisit ma main et continue sans souffler. Passons au Roi s'amuse, 1832. C'est le second cuisant échec théâtral de Hugo, et pas sous un faux nom cette fois. Je coupe Alexandre. D'accord, j'ai lu cela sur le net. La pièce était mauvaise, une seule représentation, un bide. Alexandre s'étrangle. Le Roi s'amuse? Une mauvaise pièce? Je vous l'accorde, elle n'a été jouée qu'une fois, mais savez-vous qu'elle sera reprise 20 ans plus tard par Verdi pour en faire un opéra? Rigoletto, l'un des plus célèbres opéras du monde. Non, en réalité, l'échec du Roi s'amuse s'explique par deux raisons, deux seules raisons. Lesquelles? Suis-je obligée de demander comme une élève attentive? La première est politique. Le héros du Roi s'amuse, de Rigoletto, est un bouffon monstrueux qui se moque ouvertement de la monarchie. J'ai compris. Et la seconde? Alexandre glisse à nouveau l'encyclopédie devant mon nez, tourne les pages. Il continue sur le même ton doctoral. Hugo a écrit une tragédie classique. Triboulet, le bouffon monstrueux, aime follement sa fille unique, Blanche. Le grand rôle dramatique de la pièce. Le roi François Ier enlève Blanche et tente de la séduire. Droit de cuissage royal. Triboulet le bouffon veut alors assassiner le roi pour se venger, mais Blanche déjoue l'attentat en se faisant tuer à sa place par son propre père. Un sombre drame romantique, vous voyez. Mais à votre avis, Ariane, qui jouait le rôle de Blanche? Je lis. Je connais déjà la réponse. Blanche, fille de Triboulet, jouée par Mademoiselle Anaïs. Lisez! Insiste encore Alexandre, lisez les critiques. Je détaille un long texte de commentaires sur les corrections apportées par Victor Hugo pour espérer déjouer la censure et retourner les critiques en sa faveur. Les remaniements de l'acte 2 montrent la disparition presque complète de tout le détail de l'enlèvement de Blanche. Sur la scène, on avait enlevé Mademoiselle Anaïs tête en bas et jambes en l'air. J'en ai assez cette fois. Alexandre, cessez de jouer au chat et à la souris avec moi. En quoi consiste-t-elle au juste votre fameuse théorie? Un grand sourire s'affiche sur le visage d'Alexandre. Il pose un doigt sur sa bouche et regarde en coin la bibliothécaire statufiée. Cela reste un secret entre nous. Je vous fais confiance. Ce que je vais vous révéler, à ma connaissance, aucun spécialiste de Hugo n'en a jamais fait l'hypothèse. Il m'énerve avec ses précautions. Allez-y. D'accord, Ariane, d'accord. Victor Hugo, comme chacun sait, est né en 1802. Le siècle avait 2 ans. À votre avis, en quelle année est née Anaïs Aubert? Je demeure muette, j'ai décidé de ne plus jouer aux devinettes. 1802, comme Hugo. Je résume ce que nous savons, Ariane. Victor Hugo est le jeune auteur romantique le plus prometteur de Paris. Mademoiselle Anaïs, la plus jolie comédienne de la capitale. Ils étaient nés pour se rencontrer. C'est le cas d'ailleurs, je vous en ai fourni la preuve historique. Le jeune Victor Hugo va confier à Mademoiselle Anaïs ses 2 premiers rôles dramatiques. C'en est même incroyable lorsqu'on y pense. Anaïs Aubert est connue pour ses rôles de soubrette à la Comédie française. Jules Truffier dira même d'elle qu'elle était tout à fait insuffisante pour jouer la tragédie. La question décisive est alors la suivante. Pourquoi le jeune et talentueux Victor Hugo fait-il porter sur les épaules d'une actrice qui n'est pas à la hauteur, la jolie Anaïs, les rôles-titres de ses premières grandes tragédies? Je crie presque. Parce qu'il couchait avec elle. C'est l'évidence, triomphe Alexandre. Anaïs Aubert était la maîtresse de Hugo. Je sais, les spécialistes de Hugo vous diront qu'il est longtemps resté amoureux de sa femme infidèle, Adèle. Je n'y crois pas une seconde. Hugo a multiplié les maîtresses au cours de sa vie. On se découvre rarement un beau jour sur le tard coureur de jupons. Faites-moi confiance, Ariane. Anaïs Aubert était l'amante de Victor Hugo. L'écrivain la laissera tomber après 1832 et l'échec du roi s'amuse. Le second échec après Amir Obsar. Deux échecs provoqués, entre autres, par l'interprétation ridicule de Mademoiselle Anaïs. Quelques mois plus tard, Hugo devient l'amant de Juliette Drouet. Une maîtresse chasse l'autre. D'accord, Alexandre. Votre hypothèse est cohérente. Mais en 1826, que s'est-il passé en 1826? Le regard d'Alexandre scrute autour de lui. Une mouette aux aguets. Nous savons maintenant qu'en 1826, la belle actrice a fui son amant, qui n'est autre que Victor Hugo. On ne découvrira sans doute jamais la cause de cette dispute. Hugo était alors un tout jeune père. Peut-être avait-il des scrupules, peut-être qu'Anaïs voulait obtenir davantage du jeune Hugo que le simple statut de maîtresse. Mais ce que je sais, par contre... Sa voix devient grave. Je l'ai découvert après des années de recherche, dans une lettre de Jules Truffier, l'homme de théâtre, l'ami de Hugo, de Meulingue et de Veules-les-Roses. Truffier dressait un tableau peu flatteur d'Anaïs Aubert, racontait qu'elle avait plus de charme que de talent, vous voyez ce que je veux dire. Mais surtout... Alexandre hésite encore. Je dois lui sortir les vers du nez, en alexandrin s'il le faut. Mais surtout... Alexandre me répond d'une traite. Mais surtout, Truffier sous-entendait, tout comme Meulingue dans votre lettre, qu'Anaïs Aubert avait dissimulé un secret à Veules, un secret avec lequel elle s'était enfuie. Mais Truffier était bien plus précis que Meulingue. Alexandre ménage encore une interminable pause. Je soupire, il poursuit. Truffier prétend qu'Anaïs Aubert, par jalousie, a volé un manuscrit au jeune Hugo. L'original d'une pièce, d'un roman, d'un essai, on ne sait pas. Hugo travaillait sur Cromwell en 1826. Anaïs parla autour d'elle de ce texte mystérieux qu'elle avait dérobé. « C'est ce manuscrit original que je recherche depuis des années, depuis toute ma vie !» Je reste là, sans rien pouvoir dire d'autre, le souffle coupé. Alexandre a continué de parler, longtemps, plus d'une heure. Il se perdait en spéculation sur ce mystérieux manuscrit dissimulé quelque part à Veules-les-Roses depuis 1826. Des spéculations d'ailleurs plus financières que culturelles. Combien pourrait valoir un manuscrit de Victor Hugo? Une œuvre inédite de l'écrivain peut-être le plus connu au monde. Des millions? Des dizaines de millions? Autant que n'importe quelle toile de maître? Davantage même? Petit à petit, je prends conscience que je suis la seule à partager ce secret avec Alexandre. Par la simple grâce de la lettre de Meulingue. Comme si la falaise s'était effondrée sur moi. Dans quelle histoire de dingue me suis-je fourrée?